Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 13h en temps universel, 9h à Port-au-Prince.
RFI Midi.
Anne Cantner.
Nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel, pendant une demi-heure, avec à la une la tentative de coup d'État en Bolivie ratée hier. Le chef de l'armée est en prison et que ce soit sur le continent ou ailleurs dans le monde, les pays étrangers condamnent cette tentative de putsch. Nous parlerons aussi d'Haïti qui attend l'arrivée d'un deuxième contingent de policiers kényans. Nous sommes avec le rédacteur en chef du grand quotidien haïtien, Le Nouvelliste. Et puis comme chaque jour, le journal des Outre-mer, Oda Naji Ali, vous nous parlerez tout à l'heure de cette première mondiale en matière de transplantation cardiaque.
En janvier, un cœur prélevé aux Antilles a pu être greffé à Paris. Prouesse rendue possible grâce à un dispositif innovant et une première amenée à se renouveler, Anne.
L'actualité des Outre-mer dans une vingtaine de minutes et tout de suite, l'essentiel de l'actualité dans le monde.
RFI Midi.
Avec vous, Gilles Moreau, et on va commencer par ce rendez-vous. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 sont réunis à Bruxelles.
Oui, ils doivent entériner le compromis négocié ces derniers jours sur les postes stratégiques à la tête de l'Union européenne pour les 5 prochaines années, à commencer par celui de président de la Commission, président plutôt présidente. L'Allemande Ursula von der Leyen va être reconduite pour un deuxième mandat. Invité des 27 à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il vient signer un accord de sécurité et réclamer une fois encore des armes. Le processus d'adhésion à l'UE vient tout juste de commencer, ce dont s'est félicité à son arrivée le président du pays en guerre contre la Russie. Écoutez.
We waited for this.
On attendait ça depuis
a long period of time. Yes.
Un long moment. Tout le monde, les civils, nos héros sur le front, vous savez combien on veut être dans l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est une étape historique forte. Et merci beaucoup pour ce soutien et pour avoir ouvert ce processus d'adhésion. C'est très important pour nous tous et pour l'Ukraine, croyez-moi.
Volodymyr Zelensky à son arrivée à Bruxelles, alors que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite n'a jamais été aussi près de prendre le pouvoir en France. Il reste confiant. Volodymyr Zelensky se dit convaincu que le nouveau gouvernement français issu des législatives maintiendra son soutien à l'Ukraine face à la Russie.
Au sommaire également, un débat télévisé aux États-Unis. Joe Biden et Donald Trump se retrouvent ce soir à un peu plus de 4 mois de la présidentielle.
Oui, rendez-vous est pris à Atlanta pour le premier débat télévisé de la campagne. Il sera suivi par des millions d'Américains sur la chaîne CNN. Outre Biden et Trump, un troisième candidat aurait bien aimé être là et il est furieux que CNN l'ait évincé. Il s'agit du candidat indépendant Robert Kennedy Jr., héritier de la prestigieuse famille Kennedy et neveu de JFK mort assassiné Christophe Paget.
Mon exclusion par les présidents Biden et Trump du débat est antidémocratique, anti-américaine et lâche. Robert Kennedy Jr. est furieux. Il avait menacé de poursuivre CNN s'il ne participait pas au débat. La chaîne a quand même annoncé la semaine dernière qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Les participants devaient concourir dans un nombre suffisant d'États pour pouvoir récupérer les 270 sièges nécessaires à la victoire à la présidentielle. Ils devaient aussi atteindre les 15% d'intention de vote dans au moins 4 sondages nationaux. Or, selon son équipe, pour le moment, son nom n'apparaît que sur les bulletins de 8 États et il n'atteint les 15% que dans 3 sondages. Sa cote s'est effritée depuis le début de l'année, il serait aux alentours de 10%. Mais Robert Kennedy gêne toujours Joe Biden comme Donald Trump, car il pourrait leur prendre des voix dans ces États-clés où chaque vote compte. Et impossible d'établir clairement lequel souffrirait le plus de sa candidature. Car si Robert Kennedy Jr., en plus de son nom prestigieux, a d'abord tenté de concourir comme démocrate, il est aussi complotiste et anti-vaccin. En tout cas, il a déjà annoncé qu'il participerait au débat, mais sur le réseau social X, où il répondra aux mêmes questions que celles posées sur CNN.
C'était Christophe Paget.
En Iran, on votera demain pour l'élection présidentielle.
Oui, la campagne électorale a pris fin ce matin en Iran, 24 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Demain, les Iraniens éliront le successeur d'Ebrahim Raisi, décédé le 19 mai dernier dans un accident d'hélicoptère. Parmi les principaux thèmes de cette campagne menée au pas de charge, la question des sanctions internationales. Oriane Verdier.
Cette élection anticipée, un mois après la mort du président Raïsi, survient dans un contexte international particulier. Les autorités iraniennes se sont affichées en soutien du Hamas dans la guerre à Gaza, ainsi qu'en soutien de la Russie sur le dossier ukrainien. La poursuite du programme nucléaire iranien n'aidant pas, les pays occidentaux, États-Unis en tête, ne cessent de renforcer leur régime de sanctions contre Téhéran. Parmi les trois principaux candidats, deux d'entre eux appellent à négocier pour lever les sanctions et libérer l'économie iranienne. Mohamed Kalibaf estime d'ailleurs que c'est l'unique motivation de discussions plus poussées avec les diplomaties européennes et américaines. Il appelle cependant à accroître les capacités nucléaires du pays pour forcer les Occidentaux à négocier avec l'Iran. Le candidat soutenu par les réformateurs, Massoud Pezeshkian, promeut, lui, le rétablissement de relations dites constructives avec Washington et les capitales européennes afin de sortir l'Iran de son isolement. Quel que soit le vainqueur du scrutin, il devra de toute façon jongler entre sa propre vision et la ligne globale définie par le guide suprême.
Oriane Verdier du Service international.
En France, nous sommes à 3 jours du premier tour des législatives anticipées.
Et le Rassemblement national mène toujours la course dans les sondages avec 36% des intentions de vote. Sondage Ipsos pour Le Monde. Le nouveau Front populaire, l'Alliance des gauches, recueillerait 29%. Le camp macroniste, 19,5%. Et LR, 8%. LR, le parti des Républicains, englué dans une campagne très difficile. C'est un parti profondément divisé par l'alliance scellée par le président Éric Ciotti avec le RN de Jordan Bardella. Est-il d'ores et déjà mort ? Eh bien non, veut croire Gérard Larcher. Raphaël Delvolvé, bonjour.
Bonjour.
Le président LR du Sénat prône dans le journal Le Parisien une autre voie que les extrêmes, mais sans ménager ses coups contre Emmanuel Macron.
Ah ça, si on voulait démentir un rapprochement entre le patron du Sénat et le chef de l'État, on ne peut pas mieux s'y prendre. Écoutez plutôt, le président ratatine la démocratie, il interprète personnellement la Constitution. Gérard Larcher se montre extrêmement critique de la dissolution et il semble ne pas avoir digéré la façon dont ça s'est passé. Il raconte avoir été prévenu lors d'un bref coup de téléphone d'une minute trente chrono le soir des européennes. Il somme maintenant Emmanuel Macron d'imaginer la sortie d'une crise qu'il a lui-même provoquée. Gérard Larcher le confesse aussi, la situation est plus dure que d'habitude pour le parti Les Républicains. Il se sent trahi par Éric Ciotti, parti rejoindre le RN, et demande de jouer collectif lorsqu'on l'interroge sur la prise de distance hier d'Aurélien Pradier. Après ces législatives potentiellement catastrophiques pour LR, Gérard Larcher le sait, il sera l'un des hommes forts de la droite, ou du moins ce qu'il en reste. Sa chambre, le Sénat, est dominée par LR et va jouer un rôle très important, quel que soit le visage de la future Assemblée nationale. LR est en état de mort cérébrale, mais quelques membres bougent encore.
Raphaël, merci. À propos encore de LR, attendu en fin de journée une décision de justice sur un référé des anti-ciotistes. Il demande la convocation d'un bureau politique pour exclure définitivement Éric Ciotti. Et puis, ce soir, les représentants des trois grands blocs, majorité présidentielle, Front populaire, extrême droite, se retrouvent pour un ultime débat, donc à 3 jours du premier tour en France.
Et pour finir ce journal, Gilles, on va parler d'une sortie cinéma en France.
Oui, elle est consacrée à la vie et à l'œuvre d'une icône de la folk music, la chanteuse américaine Joan Baez, âgée aujourd'hui de 83 ans. On la découvre à travers des images d'archives personnelles ou publiques. I'm a noise, je suis un bruit, c'est le nom de ce documentaire qu'a vu pour nous Elisabeth Le Quéré.
Des textes engagés, magnifiés par une voix cristalline, que ce soit pour le mouvement américain des droits civiques ou contre la guerre du Vietnam, Joan Baez a été de tous les combats pour défendre les droits humains. Dans ce documentaire, réalisé pendant sa tournée d'adieu de 2018, se côtoient captations de concerts et quotidien de l'artiste, rythmé par sa préparation physique et mentale. Puis le ton devient plus personnel. En ouvrant pour la première fois ses archives, Joan Baez se livre sans fard sur sa renommée précoce et ses traumatismes d'enfance. Devenue une star à 18 ans, elle prend aujourd'hui pleinement conscience du poids que cette célébrité a fait peser sur sa famille, entre autres sur ses deux sœurs. Ainsi parvient-elle, dans son propre biopic, à s'effacer pour mettre en lumière celles qui sont restées dans l'ombre.
Voilà, I'm a noise, je suis un bruit, c'est le nom de ce documentaire consacré à Joan Baez.
Gilles Moreau, prochain journal dans une heure sur RFI. Et nous sommes sur le continent américain. RFI midi, suite et fin, avec au sommaire Haïti, les États-Unis et la Bolivie.
RFI, la radio del mundo.
C'est un coup d'État manqué en Bolivie. L'initiative d'un homme, le général Zuniga, limogé la veille à cause de propos concernant l'ancien président Morales. L'officier a massé hommes et blindés devant le palais présidentiel, mais sans fédérer suffisamment pour mener son projet à terme. Il a fini par être arrêté. Le récit des événements avec Abla Junaidi.
Juan José Zuniga, menotté, exhibé devant les caméras par le ministre de l'Intérieur, sa tentative de coup d'État défaite. Elle avait commencé vers 15h. Les chars de ses hommes massés sur la place Murillo, face au palais du gouvernement. Sous le bruit des bombes lacrymogènes destinées à éloigner la foule, le président Luis Arce et ses ministres apparaissent alors à la télévision, dénonçant l'action du général et appelant la population à réagir.
Nous avons besoin que le peuple bolivien se mobilise contre le coup d'État et en faveur de la démocratie.
Appel entendu et relayé même par la principale centrale syndicale, la COB, pourtant fer de lance du mouvement social contre Luis Arce, appelle à la grève générale. Union sacrée, même l'ancien président Evo Morales, devenu rival de l'actuel chef de l'État, dénonce le coup de force. Très peu de monde se masse autour du général rebelle. Il pénètre seul dans le palais présidentiel quelques instants. Le temps d'un face-à-face avec Luis Arce, capté aussi par les caméras des journalistes. Démis de ses fonctions, la veille, le chef de l'armée est remplacé par le général José Sanchez. Il exige le retour des soldats aux casernes. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur en personne vient appréhender le général dissident. Devant les journalistes, Juan José Zuniga a le temps d'accuser le président Luis Arce. C'est lui qui aurait donné l'ordre de monter un coup d'État contre lui-même afin de rehausser sa popularité, dit-il. La fin d'un coup de force dénoncé quasiment par tous, dirigeants d'Amérique latine et d'Europe compris.
Voilà, cette tentative de coup d'État n'aura duré que quelques heures, donc le chef de l'armée est désormais en prison et je vous propose d'écouter l'analyse de Gaspard Estrada. Il est politologue à Sciences Po et il est interrogé par Christophe Paget.
La situation politique et sociale en Bolivie est inflammable depuis déjà de nombreuses semaines compte tenu d'une crise économique qui sévit dans le pays, une manque de dollars, une augmentation de l'inflation et donc une perception de cherté de la vie, une très grande polarisation politique entre le camp de Arce et le camp de l'ancien président Morales. Dans un contexte préélectoral, il y aura des élections en 2025. Le général Zuniga a pris des mots de plus en plus durs à l'encontre de l'ancien président Morales. Et lorsque le président Arce a décidé de le démettre, compte tenu de cette réponse vis-à-vis du président Morales, et il y a eu une sorte de fuite en avant d'une partie de l'armée. Le général Zuniga pensait qu'il réussirait à créer une coalition autour de lui pour démettre de ses fonctions le président légitimement élu et s'installer au pouvoir. Néanmoins, on a très rapidement vu qu'il était isolé. Cet isolement s'est traduit par sa défaite.
Alors justement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été suivi alors que la situation est compliquée en ce moment ?
Il n'a pas été suivi compte tenu de la réaction très rapide du gouvernement de Luis Arce, c'est-à-dire dénoncer la situation, procéder au remplacement des forces militaires pour délégitimer le général Zuniga et aussi parce qu'il n'a pas reçu le soutien des dirigeants de l'opposition. Il n'a eu aucun soutien politique. Et sans soutien politique, il était clair que cette initiative a été vouée à l'échec.
Et pourquoi l'opposition n'en a pas profité ?
Parce qu'il y a déjà eu un coup d'État en 2019. À l'époque, contre le président Evo Morales, le général Calimán avait appelé le président à quitter ses fonctions. Et donc, l'opposition bolivienne paye le prix de son soutien au coup de 2019. Et donc, depuis lors, elle cherche à se légitimer électoralement. De ce point de vue-là, un soutien à cette tentative de coup d'État n'aurait fait que confirmer les penchants autoritaires de l'opposition bolivienne.
Le général Zuniga, avant d'être arrêté, a mis en cause le président Arce en disant que l'idée vient de lui. Il lui aurait demandé dimanche dernier de préparer quelque chose pour remonter sa cote de popularité. Est-ce qu'on peut donner un quelconque crédit à ces affirmations ?
J'avoue que j'ai du mal à voir comment cela pourrait être utile au président Arce. Il est clair que la situation est encore floue, mais j'ai du mal à apporter du crédit à ce genre d'affirmation.
Est-ce que là, on peut dire qu'après ce coup d'État raté, cette sorte d'union de tout le pays autour de la personne du président Arcé, il en sort renforcé dans une période qui est, vous l'avez dit, depuis plusieurs mois, une période de crise?
Oui, il sort renforcé. Néanmoins, cette période post-coup d'État devait être mise à profit justement pour dire voilà, il est nécessaire de partir sur de nouvelles bases compte tenu de cette situation très grave sur le plan économique, sur le plan social et du contexte préélectoral qui s'annonce compliqué pour la majorité du président Arcé.
Partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire
essayer de tenter d'avoir davantage de dialogue avec l'ancien président Morales et faire en sorte de remettre l'économie en ordre de marche puisque on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie insatisfaction au sein de la société bolivienne. Et c'est sur cette insatisfaction que comptait surfait cette tentative de putsch qui, heureusement, n'a pas fonctionné.
Gaspard Estrada, merci.
Merci à vous.
Gaspard Estrada, politologue à Sciences Po, au micro de Christophe Pagès. Cette tentative de coup d'État, on en parle aussi avec vous, Marine Le Bec. Vous avez lu pour nous la presse du continent américain et la Bolivie étant une de la plupart des journaux.
Oui, au Brésil, en Argentine, en Colombie ou au Pérou, les journaux reviennent sur l'échec de cette tentative de prise de pouvoir. Sans soutien, la tentative de coup d'État militaire en Bolivie échoue, titre au Globo, quotidien national brésilien. En Argentine, le journal Clarín condamne la tentative du chef de l'armée de terre. Comme une mauvaise imitation d'émeute, directement sortie de l'histoire, le général Zuniga a tenté un coup d'État qui a échoué à peine commencé, écrit le média, qui diffuse une vidéo prise hier pendant les tensions. On y observe une voiture militaire blindée enfoncer la porte et des soldats entrer à l'intérieur de l'ancien palais présidentiel, le Palacio Quemado, palais brûlé en français. El País, quant à lui, revient sur l'origine de ce surnom. Le palais brûlé le doit à une agression subie en 1875 lorsqu'une foule a jeté des torches enflammées depuis la cathédrale voisine et a provoqué un incendie, raconte le journal, qui rajoute si l'édifice a depuis été reconstruit, il a été témoin de décennies de manifestations violentes et de coups d'État qui ont marqué l'histoire de la Bolivie. Selon une analyse de données réalisée par deux académiciens américains, la Bolivie est le pays ayant subi le plus de coups d'État au monde depuis 1950, 23 au total, dont 12 qui ont échoué. Et impossible de tenir les comptes de tous les présidents boliviens, tant ils se sont succédés, certains seraient restés au pouvoir à peine plus d'une demi-heure, s'amuse un historien bolivien cité par El País.
Marine Le Bec, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant pour feuilleter la presse du continent américain.
RFI, The World's Voices.
Et notamment aux États-Unis pour parler de ce premier face-à-face, un débat ce soir à la télévision entre Joe Biden et Donald Trump que tous les Américains n'attendent pas avec la même impatience. Écoutez.
J'espère un débat vivant sur les discussions qui animent les États-Unis et j'imagine qu'on verra qui sera le meilleur. Cela expose les deux candidats à des situations qui vous donnent des indications sur leur réaction quand ils sont sous pression. C'est ce que j'aime. J'aime vraiment les moments de tension. Je veux voir comment ils réagissent à des questions devant le public et qu'ils doivent répondre dans l'instant.
Si les modérateurs parviennent à maîtriser les candidats et le déroulement du débat, ça devrait être un peu plus serein que la dernière fois. Ça aidera les électeurs américains à connaître leur position sur les politiques publiques plutôt qu'avoir des discours démagogiques.
C'est très écrit, c'est très prévisible. Au lieu de parler des vrais sujets, tout devient très politique, très personnel. Il n'y a rien qui en sort, c'est une perte de temps.
Des propos recueillis à Washington et à Atlanta par nos correspondants Guillaume Nodin et Édouard Maille. Très codifiés, les deux candidats à la présidence n'auront ni prompteur ni conseiller dans l'oreillette pour les guider pendant ce débat. Et pour éviter les débordements, leurs micros respectifs seront coupés pendant que l'autre parle. Ce débat, Marine, pourrait bien être un moment décisif. En tout cas, c'est ce que croit savoir le New York Times.
Oui, ça passe ou ça casse, écrit le journal. Le président Biden pourrait bien vivre les 90 minutes les plus importantes de sa campagne. Le New York Times, qui a regroupé les moments les plus marquants des débats télévisés qu'a livré Joe Biden durant sa longue carrière politique.
I'm not going to answer the question because the question is, the question
Comme ici en 2020, allez-vous la fermer ? Demande-t-il exaspéré à Donald Trump. Le quotidien américain analyse ses mimiques et sa répartie, mais pointe aussi un point faible, le boulet qu'il aura traîné pendant toute la campagne, son âge. Avec la vieillesse, sa voix s'est adoucie, il se déplace de manière plus hésitante, pointe le journal.
Le Washington Post, de son côté, a préparé 21 questions qu'il serait bon de poser, selon lui, aux deux candidats ce soir.
Oui, le journal a demandé à 21 éditorialistes une question que devra se poser le prochain président pendant ses 4 années de mandat. Il s'agit de politique intérieure, comme la question de l'accès à la propriété, de plus en plus difficile pour les Américains, tout comme la question de la couverture santé, ou bien autre option, l'impact des réseaux sociaux sur les enfants, ou même ce que prévoit le futur président pour l'anniversaire des 250 ans de l'indépendance du pays en 2026. Mais il y a aussi de la politique extérieure. Par exemple, quelle serait la victoire en Ukraine? Que devraient faire les États-Unis pour la garantir? Ou comment pourriez-vous terminer la guerre à Gaza? Des questions dont les réponses ne sont pas toujours évidentes, admet lui-même le Washington Post.
Marine Le Bègue, vous restez avec nous, on vous retrouve juste après. Un mot sur ce débat encore pour vous dire qu'on le suivra avec nos correspondants à Washington dans la soirée et jusqu'à demain matin, bien sûr, pour analyser et décrypter donc ce premier face-à-face entre Joe Biden et Donald Trump.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Une opportunité unique. Voilà comment le Premier ministre haïtien parle de l'arrivée dans le pays des premiers policiers kényans. Gary Conny a salué cette mobilisation et promis de nouveau de rétablir la sécurité.
Le premier contingent est mobilisé. Il est solide pour accompagner et supporter les stratégies haïtiennes pour reprendre notre sécurité. Maison après maison, quartier après quartier, ville après ville. Nous observons la présence de la mission, nous les voyons motivés et déterminés. Nous remercions donc le président du Kenya qui s'est personnellement engagé à nous supporter et aussi le peuple kényan qui est solidaire avec nous.
Le Premier ministre de Transition en Haïti annonce l'arrivée ce jeudi d'une deuxième équipe venue du Kenya et nous allons en parler avec notre confrère Franz Duval qui est à mes côtés en studio exceptionnellement. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
Et merci d'être là. Vous continuez évidemment de suivre de très près l'actualité haïtienne, même en déplacement. On a entendu à plusieurs reprises ces derniers temps le Premier ministre haïtien, mais nettement moins le Conseil présidentiel de transition, pas du tout même.
Bon, le Conseil présidentiel de transition ne s'est pas encore prononcé, mais il se trouve que c'est le président du Conseil qui avait écrit au président Ruto du Kenya pour confirmer la demande pour le déploiement de la mission. Je suppose qu'ils sont tout aussi impliqués, mais pour le moment, ils sont en retrait. C'est le Premier ministre Conny qui mène la danse. C'est le Premier ministre Conny qui est aussi ministre de l'Intérieur qui a été visiter les troupes kenyanes. C'est une chorégraphie entre les deux branches de l'exécutif. Pour le moment, c'est ce qu'on suppose. Mais on attend de voir une visite de membres du Conseil présidentiel qui avaient visité la base avant même l'arrivée des troupes kenyanes. Et ils finiront par aller les voir, on suppose.
Et donc, pour l'instant, vous nous le disiez, c'est Gary Conny qui est en première ligne, qui a annoncé l'arrivée d'un deuxième contingent de policiers. Vous nous le confirmez pour aujourd'hui?
Tout à fait. Le deuxième avion est attendu aujourd'hui à Port-au-Prince. Ça doit monter à 400, le nombre des troupes kenyanes disponibles. Il faut dire que la base qui est érigée du côté de l'aéroport international de Port-au-Prince peut contenir 400 personnes. C'est à peu près ça, le premier contingent de la mission multilatérale d'appui à la sécurité.
400 personnes sur le millier de policiers kényans qui ont été promis, plus ceux qui doivent venir aussi d'autres pays. Est-ce qu'on sait déjà quelles seront les missions prioritaires de ces policiers kényans?
Non, pour le moment, on ne le sait pas. Et le Nouvelliste a dit en éditorial avant-hier, on ignore les plans d'Haïti. On ignore comment va se faire le déploiement dans la capitale, parce qu'ils ne vont pas rester à l'aéroport. Comment va être l'interaction avec les forces haïtiennes, que ce soit la police ou l'armée haïtienne? Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas quelles seront les priorités. Est-ce que ce sera tout simplement de sécuriser certains bâtiments, certains points stratégiques? On ne sait pas pour le moment. On attend. Et on attend surtout la montée en puissance des troupes kenyanes. Il faut qu'ils soient à 400. Il faut aussi qu'ils aient des équipements, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire des équipements de transport, et des véhicules blindés, des choses de ce genre. Il était question aussi que des hélicoptères arrivent. On espère qu'il y aura un bateau bientôt dans la rade de Port-au-Prince pour apporter ces équipements lourds que le Kenya aura besoin pour faire sa mission en Haïti.
Et alors, on a entendu le Premier ministre de Transition saluer donc l'arrivée de ces hommes. Comment est-ce que cette arrivée est perçue par la population à Port-au-Prince?
Alors, avec soulagement. C'est pas la joie, mais c'est un soulagement, un certain soulagement. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on parle de l'arrivée de cette mission. Ça fait des mois aussi que la population subit les coups, les contre-coups de l'action des gangs. Et c'est un soulagement de voir la mission arriver. Au moins, ça va stabiliser la situation, ça va apaiser la situation, au moins. Et ensuite, si ça permet de rétablir la sécurité, de rétablir les possibilités de circulation de la population et des biens, cela aura beaucoup d'impact positif pour la population. Ils ont été accueillis quasiment avec des applaudissements par les employés de l'aéroport, par ceux qui étaient à l'aéroport le jour de leur arrivée. Et en gros, dans la population, on se dit « enfin, ils sont là ». Mais maintenant, très vite, on va se dire « qu'est-ce qu'ils sont venus faire ?»
Merci beaucoup, Franz Duval, d'avoir été avec nous ici à Paris. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du grand quotidien Le Nouvelliste. On vous retrouve tous les jeudis, habituellement en ligne de Port-au-Prince. Et on peut vous lire sur votre site lenouvelliste.com.
RFI, la radio del mundo.
Un petit mot de l'actualité du continent encore. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été reconnu coupable aux États-Unis de trafic international de drogue, condamné à 45 ans de prison à une amende de 8 millions de dollars. Il aurait aidé à envoyer vers les États-Unis des centaines de tonnes de cocaïne.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, on vous retrouve, Oda Noji Ali, pour parler de nouvelles perspectives pour les patients antillo-guyanais en attente de greffe.
Oui, en janvier dernier, un cœur a voyagé depuis la Guadeloupe pour être greffé à Paris. Le greffon cardiaque a été préservé pendant 12 heures contre 4 auparavant grâce à une nouvelle technique de conservation dite perfusion thermique oxygénée, une prouesse médicale qui ouvre des perspectives pour les demandeurs de greffe et les équipes médicales qui pourraient désormais envoyer leur greffon vers l'Hexagone et vice-versa. Le docteur Pascal Piednoir du CHU de Guadeloupe avec Marilyn Plaisir.
Ça révolutionne beaucoup de choses parce que ça veut dire que ça augmente le nombre de greffons disponibles. Donc ça améliore l'accès à la greffe pour tous les patients, y compris les patients guadeloupéens. Et puis ça permet d'envisager des facilités pour la greffe des patients guadeloupéens qui sont en difficulté puisque pas de site de transplantation localement actuellement et qui sont obligés de voyager en métropole pour pouvoir être greffés.
Un essai incluant 20 patients va bientôt débuter dans le cadre de cette vaste étude en partenariat avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, des CHU de Guadeloupe et de Martinique. CHU de Martinique où la grève se poursuit ce jeudi, le syndicat FO Santé dénonce la gestion catastrophique de l'hôpital mais aussi l'état des urgences où l'attente pour les patients serait souvent interminable. Et puis une autre première, mais au théâtre cette fois, les élèves du tout nouveau cursus Voix du Conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane sont cette semaine sur la scène du Théâtre de l'Ancre à Cayenne pour des représentations du conte musical Mila et l'arbre bateau d'Isabelle Albuquerque, série de représentations qui vient clore une année d'études dans cet établissement qui vise avant tout la mixité sociale. Véronique Nison.
Tous les enfants ont été sélectionnés pour leur aptitude musicale. Et depuis un an, deux fois par semaine, un bus passe les chercher pour les accompagner aux cours. Rebecca, qui habite le quartier Mango à Cayenne, se passionne pour le chant.
Je suis contente de chanter. Je pense que c'est une chance pour moi.
Olivia Osé-Garcian, leur professeur de chant, tenait particulièrement à la mixité sociale des groupes.
Ça n'a pas toujours été évident au départ, parce qu'il suppose une adaptation, qu'il suppose de laisser tomber quelque part son compte à soi, pour sortir du jeu, pour rentrer dans le nous. Et la musique d'ensemble propose ce cheminement. L'objectif, c'est la musique. Et bien jouer et interpréter les œuvres ensemble.
Le cursus d'excellence devrait se poursuivre deux années supplémentaires pour proposer à ses enfants d'autres répertoires du chant choral.
Voilà le reportage Guyane, la première de Véronique Nison. Très bonne journée, Anne.
Merci Oda Noji Ali. On vous retrouve demain pour l'actualité des Outre-mer. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'édition était réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain à partir de 11h, temps universel. Mais vous restez sur RFI, bien sûr. Dans quelques secondes maintenant, vous retrouverez Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Émission à retrouver aussi quand vous le voulez sur notre application RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous.
l'épopée des musiques noires.
Depuis son premier album, paru sur le label Blue Note Africa, Nduduzo Makatini jouit d'une notoriété réelle qui l'autorise à promouvoir une approche musicale enracinée dans les traditions sud-africaines. Ses aînés lui ont transmis un enseignement de l'art qui nourrit aujourd'hui son inspiration débridée. Retour sur sa prestation au Festival Normand Jazz Sous les Pommiers en mai dernier.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 TU.
RFI.